Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Piero et la Meji Chimbila.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. Tout en acceptant la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Jeanine Mabunda, le député PPRD fidèle Likinda estime qu'il revient à ses bureaux d'expédier les affaires courantes. En attendant l'élection d'un autre bureau. Faux, rétorque Jacques Djoli, député du MLC. Pour ce bureau déchu, n'a pas le droit de poser un acte. Le secrétaire général de l'ONU a plaidé pour une prorogation d'un an du mandat de la MONUSCO. C'était au cours de la réunion du Conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo organisée cette semaine. Un échange de vues entre les membres a eu lieu autour de cette prorogation. Maître Moindo Wasivino, coordonnateur du Réto, nous rejoindra avant la fin de ce journal comme invité. Il nous parlera des cas d'arrestation arbitraire et détention prolongée dans les Amigos qui tentent à diminuer dans les villes de Beni et de Butembo. Bienvenue à tous. Le FCC en général et le PPRD en particulier s'inclinent face aux résultats des votes des pétitions portant destitution du bureau Mabunda. C'est en dépit, selon eux, des multiples irrégularités entachées dans les dites pétitions. Dans une déclaration à la presse samedi à Kinshasa, le député fidèle Likinda estime que le bureau déchu de Jeanine Mabunda est pour le moment le seul habilité à assurer la gestion des affaires courantes jusqu'à l'élection et à l'installation effective du prochain bureau. Pour l'élu Dikela, aucune disposition légale n'autorise au bureau d'âge d'organiser les élections ni clôturer la session en cours. C'est donc au bureau Mabunda de le faire, ajoute Fidèle Likinda au micro de Michel Kifindangoy.
Jusqu'au moment où nous parlons, nous avons un bureau que nous avons élu et qui ne sera remplacé que par un autre bureau élu. La mission du bureau d'âge, d'abord c'est un bureau d'âge. C'est un bureau d'arbitrage. Ce bureau a fini sa mission. Il faut que le bureau sortant organise les choses proprement. La remise est reprise. Et c'est ce bureau-là qui continue à expédier ce que nous appelons les affaires courantes. Il n'y a pas de confusion. Celui qui a un avis contre elle n'a qu'à saisir le Conseil d'État. Et c'est le bureau sortant ici qui va prendre une décision pour convoquer l'élection du nouveau bureau.
Après avoir été déchu.
Après avoir... C'est ça, la gestion des liquidations des institutions de l'État. C'est comme ça.
En réaction, le député Jacques Ndjoli du MLC et constitutionnaliste affirme qu'une fois déchu, le bureau ne peut poser quelque acte que ce soit à la tête de l'Assemblée nationale. Pour lui, conformément au règlement intérieur et la Constitution, le bureau d'âge assume désormais les rôles du bureau provisoire dont les attributions sont clairement définies dans les articles 114 de la Constitution. Professeur Jacques Ndjoli est joint au téléphone par Michel Kifindangoy.
Lorsque vous lisez l'article 30 de notre règlement intérieur, il est clair que les fonctions d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale prennent fin en cas de décès, de perte de la qualité du député national ou de déchéance par suite d'une pétition. Comment un membre du bureau qui est totalement déchu peut être ressuscité pour aller présider une séance parlementaire? C'est une aberration, une absurdité. Deuxièmement, lorsqu'on parle du bureau d'âge, c'est en fait... Si nous faisons l'analogie avec l'article 14, c'est ce bureau qui est un bureau provisoire. Donc, comme le bureau provisoire est un bureau d'âge. Sauf que le nouveau bureau d'âge a des compétences limitées, notamment la continuité du travail de la recomposition du bureau. Donc, ce bureau d'âge va maintenant continuer le processus par le vote et l'installation du bureau définitif.
Le Conseil de l'Union européenne prolonge pour une année les sanctions contre 11 personnalités congolaises. Dans un communiqué de presse publié hier soir, le Conseil a décidé de maintenir ses mesures restrictives individuelles contre ces personnalités de la République démocratique du Congo jusqu'au 12 décembre 2021. Ceci après une évaluation de la situation dans le pays. Détail avec Alain Irung.
Ces personnalités proches de l'ancien président Joseph Kabila ont été sanctionnées par les conseils en 2016 pour entrave au processus électoral et les violations des droits de l'homme dans le pays. Ces mesures restrictives comprennent le gel des biens et une interdiction d'entrée dans l'Union européenne. Le conseil examinera en outre les mesures restrictives à la lumière de l'évolution de la situation et pourrait les réajuster en conséquence. Parmi les personnalités congolaises visées, l'on retrouve Emmanuel Ramazani Shadary, ex-ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab, ex-ministre de l'Intérieur, Kalev Moutonde, ancien chef de l'Agence nationale de renseignement ANER, Jean-Claude Kazembe, ancien gouverneur du Haut-Katanga, Alex Kandé, ancien gouverneur du Kasaï central, Delphin Kayimbi, ancien chef de renseignement militaire, John Numbi, ancien patron de la police, Célestin Kanyama, ex-commandant de la police dans la ville de Kinshasa, Gabriel Amissi alias Tango Fort, ancien commandant dans la première zone de défense de l'armée. L'Union européenne a décidé en 2019 de lever ses sanctions contre l'ancien porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende et l'ex-chef de la sécurité intérieure et de l'Agence nationale des renseignements Robert Kibelisa.
La réunion du Conseil de sécurité sur la République démocratique du Congo organisée cette semaine a été l'occasion d'aborder la question du renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies dans le pays qui arrive à terme le 20 décembre 2020. Le secrétaire général de l'ONU a plaidé pour une prorogation d'un an du mandat de la MONUSCO. Une prorogation qui a donné lieu à des échanges de vues entre les membres du Conseil alors que se dessine un retrait graduel et progressif de l'opération de paix. Christina Silveiro nous en dit plus.
La France estime important que la MONUSCO puisse atteindre sa pleine capacité opérationnelle avec une reconfiguration de sa brigade d'intervention. Les États-Unis invitent de leur côté la mission onusienne à planifier la remise de certaines tâches aux autorités congolaises et à l'équipe pays de l'ONU pour se concentrer sur la réforme du secteur de la sécurité. La Belgique souhaite pour sa part une démarcation claire entre les compétences de l'opération de paix et celles de l'équipe pays. La Russie s'est dite prête à travailler sur une résolution mettant en avant les tâches concrètes de la MONUSCO, mais estime que toute reconfiguration de cette dernière doit tenir compte de la situation sur le terrain et des priorités établies par Kinshasa. Un avis partagé par la Chine qui souligne que le retrait de la mission dépendra des capacités du gouvernement à assurer la sécurité. Pour l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Niger et Saint-Vincent-les-Grenadines, il est indispensable que le Conseil fournisse à la MONUSCO tous les moyens nécessaires pour exécuter son mandat en collaboration avec Kinshasa. Selon eux, une sortie précipitée de la mission, guidée par des considérations budgétaires, serait désastreuse et s'apprête des décennies d'investissement dans le maintien de la paix.
Il est 19h07 à Beni au nord Kivu où 5 civils ont été tués par les rebelles ADF dans une nouvelle attaque dans la nuit d'hier vendredi à ce samedi 12 décembre en Nzenga, village situé dans le secteur de Rwenzori. Selon la société civile de Rwenzori qui parle d'un bilan provisoire, une vingtaine d'autres personnes auraient été enlevées par les assaillants. Des précisions sur cette attaque avec André Kitenge.
Toutes les victimes ont été tuées à la machette et par balle, affirme la société civile locale du secteur de Rwenzori. Selon son président, les assaillants identifiés comme des rebelles ougandais de l'ADF ont commis ces atrocités aux environs de 22 heures locales dans le village de Nzenga, à quelques kilomètres de Mutwanga. Parmi les victimes figurent 2 femmes et 3 hommes. Notre source ajoute que les assaillants auraient également pillé les maisons de commerce et de la population avant d'incendier certaines maisons, boutiques et pharmacies. De ce matin, explique William Batoleni, président du noyau de la société civile du secteur de Rwenzori, c'est une scène de désolation observée sur les lieux. Il indique que cette nouvelle attaque vient d'occasionner un déplacement massif des habitants craignant pour leur sécurité. Toutefois, la société civile salue l'intervention prompte des FRDC venus arrêter le massacre de la population. André Kitenge, Beni, Radio Okapi.
On parle encore des ADF. Cette fois-ci, c'est dans la province d'Ituri où 2 morts et 2 blessés, dont un militaire des FARDC et plus de 20 personnes portées disparues. C'est le bilan d'une nouvelle incursion des présumés rebelles ougandais des ADF la nuit dernière dans la localité des Maïtatou, située dans le territoire du Rumu en Ituri. C'est la deuxième attaque des ADF dans cette localité en l'espace d'une semaine. De nombreux habitants ont fui les milieux par peur de perdre leur vie. Le point avec Charlie Ombalo Hae depuis Bounia.
Les populations de cette entité ont été surprises par la présence de ces hommes armés qui ont d'abord tiré plusieurs coups de balles en l'air, explique le coordonnateur de l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme d'Ndalia. Christophe Mounyanderou dresse un bilan provisoire de 2 morts et 2 blessés, dont une femme et un élément des FRDC. Il affirme que le bilan pourrait s'alourdir car plusieurs autres personnes ont été prises en otage par ces présumés EDF. Pour sa part, le député provincial David Afitande, élu du territoire d'Irumu, indique qu'après 6 mois d'accalmie, ces rebelles ougandais ont intensifié leurs attaques contre le civil. David Afitande plaide pour une collaboration renforcée entre les services de sécurité et la population pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Signalons que cette incursion est la 2e enregistrée dans cette partie de la province de l'Ituri en l'espace d'une semaine. Elle intervient après celle qui avait été repoussée par l'armée mardi dernier, toujours dans les territoires d'Irumu. Bounia, Charlie Omba, Radio 4.
Au sud Kivu, 3 morts dans 2 quartiers de la ville d'Uvira après de fortes pluies torrentielles accompagnées d'un vent violent survenu cette nuit. Selon le président de la jeunesse de Kavivira, Kiza Tiniku, qui livre l'information, l'une des victimes c'est un enfant du quartier Maranvia. Il a été emporté par les eaux de la rivière Kavivira avant d'être englouti dans le sable drainé par ses eaux. Fiston Goma Mayabala.
La rivière Kavivira a débordé, se coupant en deux, avant d'envahir plusieurs maisons d'habitation à Muranvia. Selon les témoins, le petit enfant victime n'a pas survécu pendant les sauvetages devant la pression des eaux. 2 autres enfants du même quartier sont portés disparus. Ils seraient aussi enterrés dans les sédiments emportés par les eaux des pluies. Au quartier Chichi, l'on signale 2 morts. Une fille de 17 ans et un garçon de 11 ans, tous d'une même famille. Ils ont été étouffés sous le fragment de la maison construite en terre battue après l'éboulement d'un mur de soutènement construit en amont. Les témoins affirment qu'un autre enfant de 9 ans de la même famille, acheminé à l'hôpital, se trouve dans un état grave après sa blessure. D'autres dégâts signalés à Kakombe et Kasenga font état des toitures des maisons emportées et des maisons d'habitation détruites. Un enfant de 4 ans est mort et sa maman blessée sur l'avenue de la Gombe. Le président de la jeunesse de Kavivira, Kiza Tiniko, s'est dit très inquiet de cette période de pluie qui s'annonce mal, alors que les premières victimes des inondations survenues en avril et mai dernier sont toujours en errance. D'Uvira, Fiston Ngoma Mayabala, Radio Kapi.
Dans la province du Maniema, dans les soucis de lutter contre la carence alimentaire et la malnutrition en territoire de Kasongo, un champ pilote de 50 hectares vient d'être initié par Jean-Pierre Amadi Lubenga, un agriculteur de grande renommée dans le Katanga avec la ferme Les Amadi. Approché par Radio Kapi, ce dernier explique sa motivation par le fait d'éveiller la conscience de ses compatriotes dans l'agriculture pour ne plus avoir de problèmes d'autosuffisance alimentaire, étant donné que le territoire de Kasongo est le plus peuplé de la province avec une population estimée à plus de 850 000 habitants. Jean-Pierre Amadi les invite à considérer les travaux de l'agriculture comme toute autre activité qui génère pour ainsi participer au développement de la province. Jean-Pierre Amadi Lubenga s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Je réalisais que la population de mon électorat, il faudrait peut-être l'accompagner dans son quotidien. Et le quotidien dans les territoires de Kasongo, c'est l'agriculture. Je réalisais qu'à Kasongo et au Maniema en général, les gens cultivent très mal. Et lorsqu'on n'a pas bien cultivé, il ne faut pas s'attendre à de récoltes très rentables ou de grande envergure. Ainsi que pour prêcher par l'exemple, j'ai commencé moi-même par faire un champ de 50 hectares cette saison. C'était juste une façon de prouver à cette population qu'il y a lieu de compter avec notre richesse naturelle, qu'avec l'agriculture, il y a lieu de faire de grandes réalisations. Je ne pense pas que mon seul champ puisse aider toute la province, mais ce qui peut aider toute la province, c'est que tout le monde puisse faire les champs. Ce que moi je vise, c'est que tout le monde puisse entrer dans le travail des champs et faire les champs correctement.
Actualité internationale.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à déclarer l'état d'urgence climatique en ouvrant samedi un sommet virtuel destiné à relancer les efforts pour lutter contre le réchauffement climatique 5 ans après l'accord de Paris. J'appelle aujourd'hui les responsables du monde à déclarer l'état d'urgence climatique dans leur pays jusqu'à ce que la neutralité carbone soit atteinte, a-t-il déclaré, soulignant que des efforts importants s'imposent dès à présent pour réduire les émissions mondiales de 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2010. En Turquie, la présidence a déposé ce samedi 12 décembre au Parlement une résolution prolongeant la mission des soldats turcs déployés en Libye. Elle autorise leur présence sur le sol libyen pendant 18 mois supplémentaires dans le but de soutenir le gouvernement d'union nationale. La résolution sera débattue dans les prochains jours. Son adoption ne fait aucun doute car grâce au soutien des députés du parti au pouvoir et de son allié ultranationaliste.
L'invité.
Les cas d'arrestation arbitraire et détention prolongée dans les Amigo tendent à diminuer dans les villes de Beni et Butembo. Cependant, cela est encore plus accentué à l'intérieur des territoires de Beni et Lubero. Ceci ressort d'un état des lieux dressé par les réseaux pour les droits de l'homme, REDO, à l'occasion de la célébration le jeudi 10 décembre de la journée des droits de l'homme. Maître Moindo Wasivinua, coordinateur du REDO, explique dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar.
Maître Moindo Wasivinua, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est l'état des lieux de la situation des droits de l'homme dans le Grand Nord Kivu?
Vous savez, au Nord Kivu, il y a la grande situation des présumés ADF qui continue à tiller. Au cours de l'année, il y a plusieurs milliers de Congolais qui ont été égorgés. À part la question des massacres, il y a aussi la situation des arrestations arbitraires, puisque d'après le monitoring mené, on a constaté qu'il y a beaucoup de cas d'arrestations arbitraires, que ce soit de la PNC, des agents de l'ANR, même les FARDC, puisque nous en avons des cas. À territoire de Beni comme à territoire de Lubero, ainsi que dans les deux villes Beni et Butembo. Ce sont des faits qui sont courants. Mais aussi, on a constaté que c'est dans le Grand Nord où il y a un plus grand nombre d'agents non payés alors qu'ils travaillent pour l'État congolais.
Pour la fonction publique.
Pour la fonction publique. Les statistiques que nous avons montrent que la situation est aussi grave, puisque sur 1000 agents dans un service, vous allez trouver que c'est seulement 20 qui sont payés. Moins de 5%. Mais aussi, on a trouvé une situation d'agression des journalistes, même des maisons de presse. À territoire de Beni, il y en a au moins 3 cas qu'on a si documentés. À ville de Butembo, même à territoire de Lubero.
Agression par des inconnus ou bien par des auteurs qui sont connus?
Quand ils sont habillés à tenue militaire ou policière, on présume que ça peut être des militaires ou des policiers. Mais il y a des cas où on ne sait pas réellement si c'est quel auteur, on trouve la victime blessée, mais on ne sait pas réellement qui l'a fait. Mais aussi, il y a des menaces ainsi que des agressions à l'égard des activistes des droits de l'homme. Cette année, il y a par exemple le président de la société civile à territoire de Lubero, le groupement Bouria, qui a reçu des balles. On l'a amputé sa jambe. Nous présumons que les faits de ses actions, ses dénonciations, peuvent être à la base de ce qu'il a connu comme dégâts. Mais aussi, il y a le président de la société civile de Kanyabayonga qui a été arrêté arbitrairement à deux reprises, toujours à cause de ses dénonciations. Par rapport au cas des violences sexuelles, c'est encore un problème dans le Grand Nord Kivu, puisqu'il y a beaucoup de cas que nous avions eu à monitorer ou même à accompagner. Mais le constat est que par rapport aux auteurs, peu avant dans les années passées, c'était les groupes armés, les hommes en uniforme comme les militaires et les policiers qui étaient plus nombreux par rapport aux auteurs. Mais les rapports que nous avions élaborés au cours de cette année, nos monitorings ont montré que ce n'est plus les militaires et les policiers qui ont commis beaucoup de cas, c'est plutôt les civils qui ont commis plus de viols par rapport aux années passées. Les détentions prolongées dans des amigos, puisque nous faisons aussi le monitoring des amigos, à la ville de Butembo, on dirait que ces faits ont diminué, mais à territoire de Beni comme à Lubero, c'est encore un grand problème.
Alors, vous avez énuméré toute une panoplie des cas de violation des droits de l'homme dans tous les aspects possibles. Maintenant, est-ce que la justice joue son rôle? Ça veut dire, au cas, par exemple, des dénonciations de ceci ou bien au cas d'arrestation de celui-ci ou bien au cas de violation de tel droit, est-ce que la justice est là pour contraindre les auteurs et puis les sanctionner tel que le dit la loi?
En fait, pour certains cas, la justice intervient, mais il y en a d'autres où on ne sait pas au juste ce que fait la justice. On les saisit pour un fait, mais il n'y a pas de suite. Imaginez quelqu'un qui sera acquitté alors qu'il a déjà passé plus de 3 ans à prison. C'est aussi une violation des droits de l'homme. C'est pour cela que nous demandons aussi à la justice de bien faire le travail.
D'accélérer les procédures.
D'accélérer les procédures. Tout ce qui se fait comme violation des droits de l'homme, c'est à la justice de punir, c'est à la justice de faciliter qu'il y ait réparation. Nous pensons que la justice est l'acteur principal dans tout cas de violation des droits de l'homme, puisque c'est elle qui réprime, C'est elle qui intervient à ce qui est réparé.
Alors, vous, c'est le réseau pour le droit de l'homme. Ça veut dire que c'est une plateforme. Et qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous avez fait au courant de cette année pour prévenir les violations des droits de l'homme dans tous les secteurs possibles?
Nous avons notre mission. Nous ne sommes pas un service de l'État, mais nous faisons ce que nous pouvons faire, notamment les dénonciations, les plaidoyers, l'accompagnement juridique. On fait vraiment beaucoup de choses. Nous vulgarisons des fois les textes légaux pour que la population puisse connaître aussi quelques documents légaux de notre pays ou du niveau international. Mais la question des droits de l'homme, pour nous, parce que c'est une question de tout le monde, surtout toutes les autorités, s'ils pouvaient aussi s'imbriquer, nous pensons que les droits de l'homme seraient une réalité.
Maître Mouindo Asivinua, merci.
C'est nous qui vous remercions.